And my wife was in France back.
Et ma femme qui était en France juste après son lycée pendant quelques jours, mais c'est super de connaître un petit peu plus la zone de Strasbourg. Les seuls mots que je connais en français sont ce que je dirais si quelqu'un dirait quelle était ton expérience. Pour ceux qui ne connaissent pas le français, ça se traduit à c'est excitant. Mais ça a été bon d'être avec vous. On a passé un très bon moment avec les anciens de l'église. Et ce qui est excitant pour moi, c'est que quand vous regardez l'église sur le site et que vous lisez les documents et que vous essayez d'avoir un topo de l'église, c'est une chose. Merci à l'internet, ça aide beaucoup. Mais ce qui est vraiment spécial, c'est quand vous êtes avec les gens et de louer avec vous, de passer du temps avec quelques-uns d'entre vous, on a pu le faire. On a passé un moment merveilleux. Donc laissez-moi juste dire de ma part et de la part de Dale, merci de nous avoir accueillis, de nous avoir donné cette occasion d'être ici avec vous et de partager ce temps avec vous. Je dirais que quand François nous a présenté mes oreilles américaines, quand il a dit 18, mais j'ai entendu 80, que ça faisait 18 ans que j'étais dans le ministère, mais je sais que je fais vieux, mais je ne suis pas si vieux que ça. Et on a servi dans le New Hampshire, en Floride. Ma femme et moi, on s'est rencontrés en Caroline du Sud. Mais je pense aussi que c'est intéressant que nous vivons en Floride, à Orlando. Et certains d'entre vous savent ce qu'il y a à Orlando. Il y a Mickey Mouse. C'est Disney World. On a des ouragans. On a vu ce mot en louange. Donc c'est de là qu'on vient. Il y a beaucoup de soleil. Mais on est content d'être ici avec vous aujourd'hui. Si vous ouvrez vos Bibles à Actes chapitre 16, on va regarder le passage qui parle de la direction. Vous pourrez me demander pourquoi est-ce que tu as choisi ce passage. Et une des raisons, c'est que c'est ici que j'en suis. Je viens de passer 13 ans. François a expliqué, j'ai passé 13 ans en tant que superintendant. On a installé des églises. C'était mon travail de démarrer des nouvelles églises. Donc c'est ce que je fais et que j'ai fait. C'était tout pour Jésus-Christ et son Église. Mais une des choses qu'on a fait avant ça, c'était d'être pasteur pour des églises. On a commencé une église, puis on a été pasteur dans deux congrégations pendant 18 ans. C'était notre expérience. On a deux fils, une belle-fille et deux petits-enfants. Voilà. On va regarder la parole de Dieu dans Actes chapitre 16, versets 6 à 10. S'afficher sur l'écran pour nous. Paul et ses compagnons empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, ils traversèrent la Phrygie et la Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se préparaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils traversèrent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut en le supplia. « Passe en Macédoine, secours-nous. » Suite à cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à annoncer la bonne nouvelle. On va prier ensemble, s'il vous plaît. Père éternel, on te demande de permettre à cette parole d'être délivrée et pour la gloire de Jésus et lui seul. En son nom, Amen. Un des films que vous connaissez sûrement très bien, le dernier film a été filmé à Paris notamment, c'est Mission Impossible. Certains d'entre vous les avez vus. Au début de chaque Mission Impossible, il y a une phrase. Quand Ethan Hunt, qui est un espion, un peu le personnage principal, reçoit un message, et le message dit toujours quelque chose comme ça. Cette mission, si vous l'acceptez, puis il explique quelle est la mission. Ça implique toujours quelque chose de qui défie la mort. Il doit s'accrocher à un avion ou grimper un bâtiment. C'est toujours très dangereux. Et puis ensuite, ça dit, dans 5 secondes, ce message s'autodétruira. Et tout d'un coup, 5 secondes plus tard, la fumée s'échappe et le message s'autodétruit. Et une des choses que j'ai dans mon esprit, si vous me demandez de m'accrocher à un avion ou faire quelque chose de très dangereux, c'est... Et si je voulais l'écouter deux fois, le message, avant qu'il s'autodétruise, laissez-moi m'assurer que j'ai bien compris. Mais certains d'entre nous, et je pense que c'est vrai de notre nature humaine, quand on cherche la direction de Dieu pour nos vies, quand on prend des décisions, ce que Dieu veut, ce qu'on cherche à discerner ce que Dieu veut qu'on fasse, on a peur de prendre ces décisions. On a peur de prendre la mauvaise décision. Et au lieu du message qui s'autodétruit, si je fais la mauvaise décision, c'est ma vie qui va s'autodétruire. Et donc parfois, on est paralysé. On est pris par la peur. Et Jésus-Christ ne veut pas qu'on vive dans la peur. Il veut qu'on vive en confiance. Il veut qu'on parte et qu'on accomplisse sa parole. Dans les grosses décisions, mais aussi les petites décisions de tous les jours. Qu'est-ce que ça signifie de vivre notre foi? Et donc, alors que Dale et moi, on a cherché la direction de Dieu pour nos vies, ça a été très important pour nous. Et je sais que c'est important pour vous également en tant qu'Église, car vous voulez accomplir la volonté de Dieu. Mais je sais également que chacun d'entre nous cherche la direction de Dieu pour nos vies. Je veux être là où Dieu veut que je sois. Et je crois que ce passage raconte une histoire sur la manière dont on arrive à ce lieu, comment on y arrive, et Dieu nous mène par l'exemple. Un des défis pour nous, c'est que, quelles que soient les transitions qu'on fait dans nos vies, on a une tendance, et cette tendance, parfois j'appellerais ça un piège, c'est qu'on rentre dans une mentalité où ma vie a deux composantes. C'est compartimentalisé, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a la partie laïque et la partie sacrée. Et donc mon travail est laïque. Mon temps de divertissement est laïque. Mais ensuite, l'Église, ça, c'est sacré. Et quand je lis la Bible, c'est sacré. La prière, c'est sacré. Mais je veux vous mettre au défi que c'est une mauvaise dichotomie. C'est pas la bonne manière de visualiser votre vie. Car en réalité, toute notre vie est sacrée. Si vous suivez Christ, si vous appartenez au Christ, tout ce que vous faites est sacré, est saint. C'est ce que signifie vivre avec Jésus dans votre vie. Et donc on doit comprendre à quoi ça ressemble. Et voilà la raison pour laquelle c'est vrai, parce qu'on est tous des enfants de Dieu, on appartient à Jésus. Vous avez été acheté pour un prix, Jésus est mort sur la croix pour vous. Et cette semaine, dimanche prochain, vendredi prochain, c'est le vendredi de Pâques, on est en train de célébrer Pâques, l'événement le plus important dans nos vies, c'est ce que Jésus a fait sur la croix et ce qu'il a fait à travers sa résurrection. Et donc, comment est-ce que ça affecte tout ce que nous faisons, nos vies? On appartient à Jésus. Donc comment est-ce qu'on trouve cette direction que Dieu a pour nous? Je pense que la réponse dans ce passage, qui est très importante, ce passage typiquement, de par mon expérience, grandissant dans l'Église, c'est un passage missionnaire. Et le seul moment où ce passage est utilisé, en général, c'est dans une conférence de mission. On parle d'envoyer des gens de par le monde pour propager la bonne nouvelle. C'est un appel. Un appel pour que les gens viennent dans un nouvel endroit pour servir Dieu. Mais je vous mets au défi pour vous montrer que c'est encore plus que ça. Ça parle de la manière dont Dieu mène son Église et ses gens. Et le contexte de ce passage, c'est le suivant. Paul a déjà été sur le premier voyage missionnaire. Et maintenant, il retourne dans les versets précédents à visiter les églises qu'il a commencé à mettre en place pour les encourager. Et dans ce passage, il passe à l'étape suivante. Donc à la deuxième mission missionnaire. Mais ils ont rencontré des défis, des obstacles. La tendance humaine, c'est qu'on veut de la certitude. On veut qu'elle soit sans erreur. Qui aime faire des erreurs? Rose, il adore apparemment. Non, on n'aime pas ça. Moi, je veux que tout se passe bien. Je ne veux pas faire des erreurs en français, même si je n'ai pas beaucoup étudié la langue. Je ne veux pas m'humilier. Je veux avoir tout juste. Mais la réalité, c'est que je ne peux pas vivre une vie sans erreur. Aucun d'entre nous ne peut. On traverse tout ça. Des défis et de la souffrance. Quelque chose de si profond que ça nous brise le cœur. Donc pour qu'on puisse comprendre, si on va découvrir la direction de Dieu, on doit en gros comprendre deux choses. Qu'on doit vivre nos vies en obéissance pour Dieu et aussi à être à l'écoute spirituellement pour la voix de Dieu. Obéissance de ce qu'on connaît et direction dans ce qu'on ne connaît pas. C'est aussi simple que ça. Et on doit faire confiance que Dieu nous mène. Si vous voulez connaître la volonté de Dieu pour votre vie, la première chose, c'est que on doit agir sur ce qu'on sait déjà. Vous devez prendre action sur ce que vous savez, ce que Dieu vous a révélé dans sa parole. Et vous devez vivre une vie qui lui obéisse. On doit toujours être en mouvement. L'apôtre Paul et son équipe se partaient pour propager la bonne nouvelle dans la province d'Asie. Et ils savaient exactement pourquoi ils le faisaient. Parce qu'on leur avait dit, dans Actes chapitre 1, verset 8, dans certains des dernières paroles de Jésus, Jésus leur a dit, vous recevrez la puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et toutes les autres parties du monde. Et d'ailleurs, on représente quelques-unes de ces parties du monde. C'est la chose merveilleuse avec les églises internationales. Il y a des gens qui viennent de partout dans le monde. Et c'est une chose merveilleuse. Mais le problème, c'est le suivant. Si Dieu nous commande d'être des témoins, c'est la grande commission. On marche en obéissance de Dieu et c'est ce qu'ils faisaient. Ils agissaient sur ce qu'ils ont compris. Et donc, on doit également comprendre qu'il y a des choses qui sont des données dans la parole de Dieu, qu'on sait déjà. Et toutes ces choses vont nous aider à se mettre en action. Et d'ailleurs, une image, c'est qu'un bateau peut seulement être manœuvré quand il est en mouvement. Quand il est à l'arrêt, il ne peut pas être manœuvré. En tant que chrétien, on doit se mettre en action sur les choses qu'on connaît déjà et prendre nos décisions basées là-dessus. Un autre aspect, c'est que ils s'en vont, mais ils ne savent pas exactement où ils vont, ils n'ont pas tous les détails. Donc ils partent. Et en faisant cela, ils tombent sur des barrages, des portes fermées.
And so as they're doing that, we get that now. All of us are wired differently.
Et on est tous réglés de différentes manières. C'est l'idée qu'on a tous des personnalités différentes. Certains d'entre nous veulent juste partir à la charge. Certains d'entre nous veulent tous les détails, tout détaillé. Vous n'avez pas besoin de lever vos mains pour nous dire dans quelle catégorie vous vous situez. Certains d'entre nous veulent juste passer un bon moment avec des gens. Dites-moi où est-ce qu'on va et puis moi je vous suis. C'est comme où est la fête, allons-y. Et certains d'entre nous vont dire attendez, moi je vais nulle part avant que je sache exactement où on va. Ma femme et moi, quand on part en vacances, il y a une partie de moi qui veut juste se mettre dans la voiture et partir. Mais ma femme veut qu'on ait une réservation à l'hôtel et qu'on sache exactement où on va, que tout soit planifié. On est différent. Et puisqu'on est réglé de différentes manières, il faut qu'on comprenne que Dieu le fait également à sa manière. Il ne va pas tout vous donner. Et pourquoi pas? Parce qu'il veut que vous agissiez en foi, que vous le découvriez. Mais on comprend qu'il faut agir sur ce qu'on sait. Mais d'où est-ce qu'on le sait? Ben, de la parole de Dieu. Et ce qui se passe quand on lit la parole de Dieu, c'est qu'on commence à comprendre ce qu'il veut qu'on fasse. Donc si vous venez me voir à la fin du service et que vous me dites « Charles, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse ?» Je vous répondrai, ben, il y a un livre qui en parle. Il est juste là. Donc on peut commencer en regardant là-dedans. Il y a plein de choses à dire. C'est pour ça qu'il faut toujours qu'on soit dans la parole de Dieu, qu'on la lise, qu'on cherche des réponses dedans. Si on est un jeune chrétien dans la foi, il faut qu'on rentre dans la parole. Il faut aussi qu'on soit avec des chrétiens plus vieux qui ont passé plus de temps dans la foi et qui peuvent nous aider à trouver ces réponses. Mais voici quelque chose que je trouve important. Il se passe quelque chose d'autre quand on lit la Bible. Quand vous méditez sur la Bible, que vous priez à travers la Bible, ça ne vous donne pas seulement ce que vous devez faire, mais ça change la manière dont vous pensez. Romains chapitre 12, verset 2 dit « Soyez transformés par le renouveau de vos esprits. » Quand vous devenez chrétien, votre vision du monde change. Votre orientation change. Elle n'est plus laïque et sacrée. Ce n'est plus Dieu pour le dimanche. C'est Dieu pour tous les jours. Toute votre vie, regarde de ce point de vue maintenant. J'appartiens à Jésus. Je suis Jésus. Je suis un disciple de Jésus. Et ça affecte tout. Ça affecte mon mariage. Ça m'affecte en tant que parent ou grand-parent. En tant que célibataire, en tant qu'étudiant. Ça affecte tout dans notre vie. Et une des choses que je pense qui est utile à comprendre, je ne peux pas vous donner tous les principes de l'Écriture en un sermon, mais, donc je ne vais pas le tenter, mais je peux vous dire qu'il y a trois grandes questions que vous pouvez poser sur les décisions que vous prenez. Le grand commandement et la grande commission. Le grand commandement de Marc chapitre 12 qui dit « Aimez Dieu ». Il résume tous les commandements. Aimez Dieu de tout votre cœur, esprit, de toute votre âme et de toute votre force. Et aimez votre prochain comme vous-même. La grande commission, c'est aller créer des disciples, soyez en mission pour moi. Toutes vos décisions que vous prenez, vous le filtrez à travers ces questions. Est-ce que ce choix découle de mon amour pour Dieu et de mon intimité avec Jésus? Est-ce que j'ai passé du temps avec mon Père éternel suffisamment pour me montrer que quand je prends une décision, ça découle de son amour pour moi. J'ai même pensé ça en avançant, en commençant mon sermon. C'est la première fois que je prêche pour vous, mais ce que j'avais sur le cœur, c'est que je me suis dit, je me lève de cette chaise et que je me rends à ce pupitre en me disant ceci. J'appartiens à Jésus et il m'aime. Et rien d'autre ne compte. Il ne s'agit pas de ma performance, il ne s'agit pas de ce que vous pensez de moi, mais que j'appartiens à Jésus. La deuxième question, c'est est-ce que ça exprime de l'amour pour mon prochain? Est-ce que cette décision sur mon lieu de travail, à mon école, là où je vis, la manière dont je me comporte, est-ce que ce choix exprime de l'amour pour mon prochain? Donc vous prenez des décisions basées sur son impact sur d'autres personnes. Si vous êtes marié, qui est votre premier prochain? Votre époux. Si vous n'êtes pas marié, vous avez tout plein de prochains. D'ailleurs, cette église, c'est un cercle de prochains. On est tous prochains l'un de l'autre. Là où vous vivez, vous avez des prochains. Là où vous travaillez, il y a des prochains. Là où vous jouez, il y a des prochains. Comment est-ce que mes décisions vont les impacter? La dernière question, c'est comment est-ce que ce choix fait avancer la mission? Comment est-ce que ça apporte de la lumière dans l'ombre? Et je sais qu'il y a des restrictions. Je sais que vous n'avez pas la liberté de faire certaines choses au travail que vous aimeriez faire. Mais c'est une chose intéressante. Avant de quitter Orlando pour venir ici, il y a quelques semaines, j'ai entendu un jeune couple qui partait avec une traduction de la Bible Wycliffe au Pacifique du Sud, dans un pays. Ils vont traduire la bonne nouvelle pour une tribu de personnes qui n'a pas le Nouveau Testament dans leur langue, pour qu'ils puissent le lire, pour qu'ils puissent connaître Jésus. Et ça m'a frappé qu'à chaque fois que je sors et qu'à chaque fois que vous sortez dans le monde, vous êtes une traduction vivante de la bonne nouvelle de Jésus. Juste de la manière dont vous vous comportez, la manière dont vous parlez, dont vous interagissez les uns avec les autres, la manière dont vous démontrez de l'amour et de la compassion. Aider les sans-abri, le groupe qui aidait les sans-abri, vous avez traduit la Bible. C'est ça que ça signifie de filtrer sa vie basée sur Jésus. Agir sur ce que vous connaissez, aimez Dieu, aimez votre prochain et faites briller la lumière. La deuxième chose qu'il faut qu'on comprenne, parce que dans ce passage, ça dit quand ils sont arrivés en Asie, le Saint-Esprit les a empêchés de prêcher la parole dans cette province. Quand ils sont arrivés à la frontière de Mysie, ils ont essayé d'entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permettait pas. Attendez une seconde. Je transporte la bonne parole aux perdus. Pourquoi est-ce qu'il y a une porte fermée? J'arrive en Asie, il y a une porte fermée. Je ne peux pas aller en Mysie ou en Bithynie. Je marche en obéissance. Je fais ce que Dieu m'a demandé. Actes chapitre 1, verset 8. Donc qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien. Il n'y a pas de souci. Vous voyez, les portes fermées ne sont pas hors du chemin de Dieu. Parfois, les portes fermées sont tout autant, voire plus, la volonté de Dieu que les portes ouvertes. Parce que d'un point de vue d'une porte fermée, on voit qu'on est dans une position de... On cherche la volonté de Dieu et qui nous permet d'avancer avec la foi qu'on va trouver une porte ouverte. Parfois, on a une idée que Le but de la vie, c'est de réussir. Le but, c'est la destination, d'accomplir les buts. Mais je vais vous dire une chose. La vie est un voyage. Et la volonté de Dieu est dans le procédé de ce voyage tout autant que la destination. Et il veut que vous soyez attentifs au voyage, pas juste la destination. Je pense que beaucoup d'entre nous sont tellement frustrés qu'on voit qu'il y a des obstacles et on se dit « c'est pas ce que j'avais prévu, c'est pas ce que je voulais faire. Pourquoi est-ce que je suis retenu ?» On devrait se dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire à travers cette situation? Qu'est-ce que je dois voir ?» Je suis sûr qu'il se posait cette question alors qu'il voyageait. Le voyage, c'est la volonté de Dieu. Le processus, c'est la volonté de Dieu. Il y a une citation que j'adore, d'Oswald Chambers. Et il a dit, le but de Dieu, c'est de me permettre de voir qu'il peut marcher sur les tempêtes de ma vie maintenant. Si on a un but plus éloigné en tête, on ne fait pas assez attention au temps présent. Mais si on se rend compte que moment après moment, l'obéissance est le but, que chaque moment, alors qu'il arrive, est précieux. Ça, c'est quelque chose que vous devez savoir. Vous le savez sûrement déjà, mais je vais vous le rappeler. Dieu connaît l'avenir. Est-ce que vous le croyez, que Dieu connaît le futur? Et vous ne le savez pas. Et ça suffit qu'il le connaisse, même si vous ne le connaissez pas. Ça, c'est la beauté de suivre Jésus. Parfois, la réponse peut être non. Parfois, la réponse peut être pas maintenant. Parfois, la réponse est pas toi, mais quelqu'un d'autre. J'ai quelque chose d'autre prévu pour toi. Mais ce qui devrait vraiment se produire, c'est Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Et Seigneur, où est-ce que tu me mènes à partir de ce point? Je pense que les portes fermées demandent plus de foi que les portes ouvertes. Si la porte est simplement ouverte et vous pouvez entrer, c'est bien, on se dit amen, j'aime bien. Plus de portes ouvertes que fermées, oui, je le préférerais. Mais quand j'arrive sur une porte fermée, ça me force à faire quelque chose que je devrais toujours faire. Et c'est d'appeler Dieu et lui dire « Seigneur, je suis ici. Je pense que je suis arrivé où tu voulais que j'arrive. Je ne sais pas ce qui vient en prochain, mais je sais que tu es fidèle. Et Seigneur, je te fais confiance. » D'ailleurs, il y avait deux portes fermées. C'est intéressant que ça disait « Le Saint-Esprit les a empêchés de donner la bonne parole. » Et puis ensuite, ça dit « L'Esprit de Jésus ». Pourquoi est-ce que ça n'a pas simplement dit, encore une fois, « Le Saint-Esprit » On parle du même esprit, finalement. Je pense qu'il y a une raison. Je pense que cette raison, c'est que le Saint-Esprit voulait qu'on sache que c'était important. C'était l'Esprit de Jésus, car Jésus est la tête de l'Église. Jésus est l'époux et nous sommes l'épouse. Il nous mène. Et donc ne questionnez pas son amour pour vous. Il est mort pour son Église. Ne remettez pas en question l'amour de Jésus quand vous arrivez sur une porte fermée. Il vous aime. Il a quelque chose de prévu pour vous. Et il faut qu'on le sache. J'ai vécu cette expérience dans ma vie. Je voudrais un peu l'expliquer pour que vous nous connaissiez un petit peu mieux. Quand j'ai terminé le séminaire, j'avais 25 ans. J'étais un jeune homme. J'ai rencontré ma femme qui vient du New Hampshire. Moi, je viens de Floride. Pour ceux qui ne connaissent pas trop les États-Unis, c'est un peu un mariage interculturel. Donc peut-être que vous ne le croirez pas. Vous allez vous dire, ouais, c'est ça. On est en France, on a l'Allemagne, On vient de plein d'endroits dans le monde. Mais aux États-Unis, c'est un mariage interculturel. On parle même différemment. Ils parlent vraiment bizarrement là-haut. Et bien sûr, ils pensent que nous aussi, on parle bizarrement dans le Sud. On a d'autres problèmes. Ça, c'est une autre histoire, une autre conversation. Je voulais pas retourner en Floride, je voulais aller au New Hampshire. On appelle ça le cimetière des églises. C'est un endroit difficile pour servir. J'étais jeune, je voulais prendre la Nouvelle-Angleterre pour Jésus. Et Dale disait, j'ai grandi ici, Chuck. Ils ont aussi passé un an en Afrique de l'Ouest en tant que missionnaire. Elle est revenue et elle a dit, tu sais, moi j'aimerais bien aller là d'où tu viens. Il fait un peu plus chaud, on peut essayer la Floride. C'était pas la raison principale, mais on a prié, on a cherché Dieu. Et on est allé en Nouvelle-Angleterre, on est allé pour commencer une église. Et j'étais sûr que ça allait démarrer, que ça allait super bien se passer. Des portes ouvertes tout le long. Et pour raccourcir l'histoire, après un an que j'étais là-bas, notre affluence moyenne était incroyable. C'était 9 personnes au total. Et en fait, 6 d'entre elles voulaient être là. 3 d'entre eux n'étaient pas si sûrs. Un d'entre eux, c'était moi, un, c'était ma femme et notre fils de 2 mois. Mais on n'avait pas le choix. Et d'ailleurs, quand vous êtes pasteur, vous comptez tout le monde, y compris vous. Et je commençais à dire, Seigneur, est-ce que je me suis trompé? Est-ce que j'ai fait une erreur? Peut-être que je ne suis pas une personne qui est faite pour commencer des églises. Peut-être que ce n'est pas le bon endroit pour moi. Et j'ai écrit une lettre à notre direction en disant, vous savez, si quelque chose ne change pas dans 2 mois, je pense que vous devriez repenser les choses, n'investissez pas plus d'argent pour moi parce que je ne suis pas la bonne personne. Mais c'est à ce moment que Jésus voulait que j'arrive. Parce que ce jeune homme qui pensait qu'il allait conquérir la Nouvelle-Angleterre pour Jésus avait besoin de se rendre compte qu'il ne s'agissait pas de moi, mais de lui. J'étais tombé sur une porte fermée ou une porte qui se fermait. Et c'est exactement là que je devais être. Peut-être que vous faites une expérience similaire en ce moment ou que vous l'avez déjà fait. Et vous vous dites, mais Chuck, est-ce que tu peux faire une mauvaise décision? Est-ce que parfois tu peux tomber sur une porte fermée parce que tu t'es trompé? Et ce que je dirais là-dessus, c'est parce qu'on avait beaucoup prié, on s'était donné au Seigneur, on marchait en obéissance. Et voilà ce que je peux dire. Vous pouvez prendre des mauvais chemins si vous faites cela. Si vous oubliez Dieu, vous pouvez arriver au mauvais endroit. Vous pouvez descendre le mauvais chemin. Le grand écrivain John Bunyan, qui a écrit cette magnifique allégorie, qui disait qu'il y a des passages secondaires qu'on peut prendre. Mais même si on oublie Dieu et que vous arrivez au mauvais endroit, vous pouvez toujours revenir au bon endroit. Il y a le pardon, il y a la grâce. On peut corriger la trajectoire et donc revenir sur le bon chemin. Si vous en êtes à ce point-là, sachez ceci, Jésus vous rappelle à lui. Mais voici le point auquel il veut nous apporter. C'est que c'est un voyage et on doit écouter et s'attendre à entendre. Il nous mène. On doit continuer à être en mouvement, en obéissance, et voici pourquoi. Parce que alors ils continuent à bouger, ils arrivent en Messinie, ils arrivent à Troas, c'est sur la côte, un village portuaire, et ils devaient se dire, est-ce qu'on retourne à Antioche ou... Il semblait que c'était le bon endroit où aller. Et donc, alors qu'ils y sont, cette nuit-là, Paul reçoit une vision d'un homme en Macédoine qui le supplie de venir en Macédoine. Deux portes fermées, Et maintenant, un appel à une possible porte ouverte. Voici ce que vous devez savoir. Jésus voit des choses que vous ne voyez pas. Il est plus intelligent que vous. Un de mes écrivains préférés dit ça. Dieu est intelligent. Il sait des choses que nous ne savons pas. Est-ce que vous le croyez? Je ne vais pas vous demander de lever votre main si vous pensez être plus intelligent que Dieu. Donc, je ne vais pas vous surprendre. Mais Dieu sait des choses que vous ne connaissez pas. D'ailleurs, Dieu savait, je vais vous le dire dans quelques minutes, Dieu savait ce qui se passait en Philippie, dans cette zone de la Grèce qui était la porte d'entrée pour l'Europe. Dieu savait ce qui s'y passait et il préparait le chemin. Vous voyez, il connaît l'avenir. Il voit le reste du chemin. Je termine l'histoire du New Hampshire. Quand je suis arrivé au bout de moi-même et je me suis dit, peut-être que c'était une erreur. J'avais le sentiment que Dieu voulait que je continue. C'était dans les deux prochains mois que Dieu a commencé à changer les choses dans notre première église au New Hampshire. Et ça a commencé à grandir. Miraculeusement, et malgré toutes mes erreurs, cette église est encore là-bas et elle continue de grandir. Mais il a vu encore plus loin que ça. Ce qu'il a vu, c'est que un jour, je recevrai un appel de notre district en disant que Chuck, puisque tu as mis en place des églises au New Hampshire, que tu as de l'expérience, est-ce que tu pourrais considérer d'être en charge de l'installation d'églises en Floride? Si seulement il connaissait toute l'histoire, n'est-ce pas? Et pourtant, Dieu me préparait à travers cette expérience pour cette prochaine expérience. Parce que le Seigneur m'avait brisé et m'avait appris des choses. Et maintenant, j'étais prêt. Et quand on tombe sur un mur ou une porte fermée, le Seigneur me préparait pour ça, préparait pour être le superintendant. Il voyait tout ça. Il voyait que j'avais besoin de traverser tout cela si j'allais aider des personnes là-bas. Il sait ce que vous traversez là maintenant et il sait exactement comment il va l'utiliser si vous l'écoutez alors qu'il vous dirige. Il sait ce qui va venir. Il faut qu'on le croie. Il accomplit son grand plan. Il nous dirige toujours quand on en a besoin, mais pas avant. Il aurait pu leur dire plusieurs fois, voilà, n'allez pas en Bithynie, n'allez pas en Asie, ça sert à rien. Juste aller directement à Troas. Ils prenaient le bateau jusqu'en Macédoine. Mais ils avaient besoin de passer ces étapes pour en arriver là. Vous voyez ce que je veux dire? C'était pas une perte de temps. Le voyage n'est pas une perte de temps. Donc si on continue d'avancer, il dirige son église. Il ne dirige pas que des personnes, il dirige des congrégations, il vous dirige. Et alors que vous l'écoutez, il va vous mener dans un lieu qui vous permet d'amener des témoins pour Jésus. Il va vous impacter pour que vous prospériez. Je pense qu'il va vous mener à influencer tous les pays qui sont représentés ici, pour que vous puissiez avoir une influence de par le monde. Quel privilège! Quelle opportunité! Mais il nous dirige seulement quand on est prêt à l'écouter, qu'on est en attente pour la prochaine mission. Quand on passe du temps en silence et en solitude, parfois on pense, qu'est-ce qui se passe quand Dieu est silencieux avec moi? Si j'écoute et que je n'entends rien? François et moi, on parlait d'une histoire. Je n'ai pas eu tous les détails, mais c'était pendant la Seconde Guerre mondiale. Un juif qui était dans un centre camp de concentration a laissé un message sur un mur. Il n'a pas survécu. Et son message disait, je crois dans le soleil même quand il ne brille pas. Je crois dans l'amour, même quand je ne le ressens pas, et je crois en Dieu, même quand il est silencieux. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu nous dit qui il est, qu'il travaille, qu'il est vivant, qu'il est victorieux, qu'il est en mouvement, qu'il fait ça dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, et également maintenant. Mais il y a une autre raison. Et je vous poserai cette question. En regardant votre vie, est-ce qu'il a toujours été fidèle ? Est-ce qu'il y a un seul moment où il n'a pas été fidèle ? Peut-être que vous vous questionnez parfois sur ce qu'il faisait, peut-être que vous ne le saviez pas, mais il n'a jamais été infidèle. C'est pourquoi que je pense qu'on a besoin à la fois des jeunes chrétiens et des anciens chrétiens qu'ils se rencontrent. Parfois, je vais demander à Paul, est-ce que Dieu a déjà été infidèle ? François, est-ce que Dieu a déjà été infidèle avec toi ? Quand on a des options multiples, si on écoute, si on passe du temps, qu'on attend sa présence avec une Bible ouverte et une oreille à l'écoute, qu'on le fait en communauté avec d'autres chrétiens et qu'on écoute ensemble, qu'on attend sa direction, qu'il mette une impression sur notre cœur ou une parole qui vient à une personne en prière, ou que ce soit quelque chose de... Quelle que soit la manière dont il nous parle, une opportunité, il nous montre le chemin. Donc où en êtes-vous dans votre voyage aujourd'hui ? Quelle décision est-ce que vous prenez pour votre vie ? Est-ce que vous vivez dans cette vie compartimentalisée où il y a la partie laïque et la partie sacrée ? Ou est-ce que vous êtes arrivé à la conclusion que toute votre vie est précieuse à Jésus ? Toute votre vie est sacrée. Quand vous sortez sur le terrain de basket, ou peut-être ici c'est plutôt le terrain de football, même si j'aime bien le basket, est-ce que je le fais d'une manière qui honore Jésus ? Quand je vais sur mon lieu de travail, même si je ne peux pas parler de Jésus, est-ce que je fais mon travail d'une manière qui honore Jésus ? Est-ce que mes relations avec mes prochains honorent Jésus ? Quand je suis à l'école, dans mes classes, dans mes cours, est-ce que j'honore Jésus de la manière dont je traite les gens ? Dieu nous utilise pour traduire la bonne nouvelle. Il nous mène, il nous dirige. Et d'ailleurs, je peux vous dire, il y a quelque chose en attente. Dieu prévoit quelque chose pour Strasbourg, il prévoit quelque chose pour la vie de Chuck et Dale, et quelle que soit l'issue, il est toujours au travail dans nos vies. Vous voyez ce qui attendait l'apôtre Paul à travers la mer Égée, quand ils sont arrivés en Grèce, en Macédoine. Il y avait une femme qui s'appelle Lydia, qui était en prière avec d'autres personnes dans les bois, et Paul a commencé à former une église. Et toute la famille de Lydia était là. Il y avait une femme possédée qui suivait Paul, qui disait « Ce sont des messagers du Fils de Dieu. » Paul se retourne, rejette le démon. Mais le résultat, c'est que ceux qui la détenaient, des trafiquants humains, ont créé un problème et il a été jeté en prison. Et alors qu'ils étaient en prison, ils ont chanté des hymnes. Et un tremblement de terre se produit, et toutes les portes de la prison s'ouvrent. Le gardien de prison philippien est sur le point de se suicider, de peur des conséquences, et Paul et Silas disent « On est toujours là, on est tous toujours là. » Et le gardien de prison philippien et toute sa famille est sauvée. C'est ça que Dieu prévoyait. Et puisque Paul et son équipe ont suivi cette décision, on est ici aujourd'hui. À travers les années, l'Église en Europe est ici aujourd'hui. Thomas est parti en Inde, il y a eu des ministères en Asie. Mais pour ce moment, c'est là que Paul voulait que Dieu voulait que Paul soit. Et la bonne nouvelle s'est répandue. Donc je vais simplement dire ça en fermeture. La mission, si vous décidez de l'accepter, ne s'autodétruira pas. Mais il construira une vie qui vaut la peine d'être vécue, basée sur la parole de Dieu, sur le gospel, et sur l'autorité et l'amour de Jésus-Christ. Prions ensemble. Seigneur, je te remercie pour ta parole, pour la vérité. Merci Seigneur pour la manière dont tu nous as dirigés, la manière dont tu as dirigé Dale et moi-même, et la manière dont tu as dirigé cette église. Merci pour Trinity. Je te remercie pour sa direction, pour cette congrégation, pour ceux qui nous visitent pour la première fois. Et je te demande simplement que ces paroles ont touché des vies. Sers-toi de nous pour ta gloire. Mène-nous pour ta gloire. Nous voulons ta présence à chaque instant. On veut vivre dans ta présence manifeste, ta présence connue, la ressentir. Et aide-nous à être à l'écoute. Au nom de Jésus.